Alors on va continuer la série. Je m'excuse, le dimanche dernier j'ai dû arrêter à cause de l'heure, mais je n'avais pas fini. La comparaison entre Matthieu 4 et Acte 14. Alors pour ce qui concerne Matthieu 4, c'est la tentation de Jésus, hein, vous vous rappelez. Matthieu 4, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Je lis pas tout, je rappelle juste les trois tentations. Le diable lui demande à Jésus d'ordonner aux pierres de venir du pain, et bien sûr il a refusé. Et il l'a emmené sur le temple pour qu'il se jette du temple, sachant que, en tant que fils de Dieu, des anges l'auraient gardé et il serait descendu comme un héros devant la foule qui est toujours sur le parvis. Et la troisième tentation, c'est qu'il lui a proposé de lui donner tous les royaumes de la terre qui sont entre les mains du prince de ce monde, Satan, et de lui donner en anticipation de ce qu'un jour Jésus aura. Il l'aura, mais en tant que Messie glorieux. Dans Matthieu, donc on va dans Acte 14 maintenant, où il y a un parallèle très intéressant qui éclaire ce qui aurait pu arriver à Jésus s'il avait obéi à Satan. Acte 14. Et dans Acte 14, nous avons le récit de Paul qui, dans sa tournée missionnaire, arrive à Lystre. Lystre qui est au nord d'Antioche, à l'est de l'Asie mineure, qui est de la Phrygie, une partie de la Phrygie de l'époque. Et là, il voit un homme, verset 8, qui se tenait assis, impotent des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, qui fixa les regards sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Et à la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lyaotienne: Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'est lui qui portait la parole. On est en Grèce, les gens connaissent leurs croyances. Leurs croyances, c'est les Grecs, disons, se faisaient une représentation des dieux de forme humaine. En Égypte, c'était souvent des animaux, hein, le crocodile, l'ibis, etc. En Grèce, c'était des hommes, des personnes humaines, des dieux, des déesses sous forme humaine. Donc, ils avaient les caractéristiques des humains. Et l'homme cherche toujours à s'imaginer qui est Dieu. Donc, il se forge des images, des représentations, et toutes les religions font ça. Et quand Paul et Barnabas ont vu qu'ils allaient faire un sacrifice pour eux, ils ont vite arrêté ça. Ils ont dit: Mais attendez, non, non, nous sommes des humains comme vous, hein. Vous voyez, ils les ont arrêtés dans leur mythologie, dans leur façon de penser. Toutes les croyances qu'on a, hein, nous font, parce que nous sommes des humains avec une pensée, hein, nous n'allons pas arrêter de penser, c'est ce qui fait de nous des humains, eh bien, nous allons essayer d'expliquer ce que nous voyons, d'expliquer ce qui se passe devant nous, hein, pour pas faire autrement, heureusement. Mais c'est nos croyances qui nous font croire ça. Donc il faut changer les croyances. Et il faut que les croyances soient le plus proches de la réalité. Sinon, nous-mêmes, nous entrons dans une naïveté qui va nous porter préjudice, bien sûr. Donc il faut que nos croyances soient changées. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Quand on se convertit, on donne à Jésus, mais nos croyances sont toujours là. Donc il faut que ces croyances changent, hein, ce qu'on appelle changer nos modes de pensée. Okay. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit, le travail de sanctification. Là, les gens réagissent immédiatement et ils prennent Paul pour un demi-dieu qui descend, voilà, du ciel, et ils l'identifient à leur divinité. Donc c'est quelque chose de normal. Mais vous voyez que Paul est obligé de les arrêter parce qu'ils allaient lui faire un sacrifice et des sacrifices, parce qu'en général c'est des taureaux et et toutes sortes d'animaux qui allaient être sacrifiés, donc adorés. Donc ils allaient adorer Paul et Barnabas. Et on voit au verset 19 qu'il a eu du mal. À peine, verset 18, purent-ils par ces paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Les foules, il n'y a rien de plus difficile d'être en face d'une foule. Vous avez vu les foules à la Mecque, je ne sais pas combien de morts qu'il y a eu. 700 morts. Là, quand une foule se déplace, bon, voilà, vous êtes écrasé. Enfin, l'individu ne peut pas résister à une foule. Et les rois, les gouvernants ont peur des foules. Il y a des foules qui peuvent changer l'ordre politique. Prenez la Révolution française, prenez même mai 68. Bon, De Gaulle est même parti en hélicoptère en Allemagne. Il dit, voilà, ils sont fous, quoi. Ils ne pouvaient plus rien faire. Donc les foules, c'est effectivement quelque chose qui est difficile à maîtriser, surtout quand il y a un élan religieux comme ça a été le cas. Mais par la grâce de Dieu, Paul et Barnabas ont pu arrêter cela. Ce qui est intéressant, c'est de voir juste le verset après. Il suffisait que quelques juifs qui venaient d'Antioche et d'Iconium, ils gagnèrent les foules, voilà. Donc Paul les a gagnés à la raison. Et des juifs qui viennent, qui haïssaient Paul, qui haïssaient les apôtres, qui étaient jaloux de ce que les apôtres avaient du succès, voilà, parce qu'ils guérissaient les gens. Et que les gens, forcément, ils aiment bien être bénis, et donc ils suivent ceux qui les bénissent. Et les juifs, ces juifs-là, ils étaient jaloux et ils gagnèrent les foules. Et lapidèrent Paul et les traînèrent hors de la ville. Vous voyez, une foule qui est prête à sacrifier pour des dieux, en quelques minutes, hop, ils passent de l'autre côté et ils ont lapidé Paul au point qu'ils le pensaient mort, donc ils ont arrêté la lapidation. Les disciples l'ont traîné hors de la ville et il a pu retrouver la vie. Vous voyez les foules, comment ça se passe? Jésus, il a été devant la même situation. Les foules qui, au moment des rameaux, ont arraché les branchages, la verdure, etc., l'ont mis par terre et puis l'ont acclamé en disant Hosanna au Fils de Dieu, qui l'ont fait entrer dans Jérusalem avec un grand triomphalisme. Ben, quelques jours après, ils ont crucifié. Vous voyez cette versatilité de la foule. Ne soyons pas dans une foule, mais soyons des hommes et des femmes dans ce monde qui savons qui nous sommes, quelle est notre mission, quelle est notre position de chrétien. Amen. Si nous nous confondons dans la foule, eh bien, voilà, nous pouvons être entraînés dans un sens comme dans l'autre. Regardez les chrétiens, y compris évangéliques en Allemagne, qui ont soutenu Hitler. Impensable maintenant, mais à l'époque, ça paraissait tout à fait naturel. Vous voyez, la foule qui se laisse entraîner par des grands parleurs, sachant que derrière la parole, il y a toujours la séduction. Et ça, c'est le pouvoir spirituel de la séduction. Voilà, donc, nous sommes devant cette situation, et Jésus savait ça. Il est fils de Dieu. Il sait comment ça se passe, comment les hommes fonctionnent, comment les foules fonctionnent. Et vous voyez, cette capacité qu'avait Jésus, et qui veut nous donner à nous, qu'au moment où il est tenté par le diable, qui lui dit, attends, tu es le fils de Dieu, et si tu vas sauter du temple, les anges vont te porter, tu vas descendre comme avec un parachute, mais personne ne le verra, le parachute. Voilà, donc tu vas être comme un dieu, quoi. Voilà, c'est formidable. Vous voyez, un homme peut se laisser séduire par ce genre de tentation. Mais Jésus sait. Il connaît les foules, il sait comment ça se passe. Et que cette foule, bien sûr, allait l'accueillir comme un dieu, comme un héros, comme quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils attendaient, les foules, en fait, à ce moment-là? Parce qu'il faut se placer devant l'attente d'une foule. Une foule, quand elle attend quelque chose et qu'elle est servie d'une certaine manière, elle réagit de cette manière-là. Vous voyez, il faut comprendre un petit peu le contexte. À l'époque où Jésus est arrivé en Israël, qu'attendaient les foules? Allô? Qu'est-ce que les Français attendaient quand ils étaient envahis par les nazis? Que la libération. Et c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se placer dans un contexte historique, parce que chaque époque a son histoire, et les gens sont dans leur histoire, c'est normal. Parce que sinon, ça veut dire que c'est des fantômes. Et ils attendaient que l'envahisseur, parce que c'était comme au temps des nazis, hein, Israël, politiquement, était gouverné par les Romains. Ils avaient laissé, bien sûr, la religion, ils avaient laissé les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient du temple. C'était une tolérance, bien que de temps en temps, cette tolérance s'arrêtait quand il y avait une introduction dans le temple, comme dans Antiochus Épiphane. Mais ils étaient sous domination romaine. Et ce qu'ils voulaient, c'était cette libération de Rome pour être autonome. Pourquoi? Parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Mettez-vous à leur place. Vous êtes chrétien. Okay. Vous voulez que Christ règne? Oui ou non? Oui. Ben, eux, ils voulaient que Dieu règne sur eux parce qu'ils avaient les promesses. Voyez. Donc, vous voyez, on est dans une attente d'une croyance qui, en l'occurrence, est juste. Sauf que les prophètes, ils ont annoncé deux événements. Et eux, ils n'ont retenu que le dernier événement qui les intéressait, qui était d'immédiatement, il faut qu'on soit libéré, et si Dieu est Dieu, il va nous libérer des Romains. Vous voyez comme quoi les foules sont dans une attente qui n'est pas forcément juste du point de vue de Dieu, mais qui est juste de leur point de vue. Donc il faut faire attention aux prophéties. Qu'est-ce qui vous est prophétisé? Il faut toujours que ce soit en conformité avec la parole. Mais la parole, bon, tout le monde la lit. Même ceux qui sont faux prophètes, ils utilisent la Bible. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas la tordre. Il faut la laisser telle qu'elle est. Et ça qui est difficile. Il faut la prendre telle qu'elle est, en acceptant son autorité, même si ça ne nous plaît pas. Même si ça ne répond pas à notre attente. Même si ça ne répond pas à ce que nous voulons ou ce que nous voudrions. C'est ça la difficulté. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Et nous avons tendance à l'orgueil tout naturellement parce que à cause du péché. Donc Jésus savait qu'il allait, s'il allait obéir à Satan, de sauter du temple, il allait être pris pour un héros et pour ce fameux Messie qu'ils attendaient. Et donc il allait passer à côté de la mission. Pourquoi est-ce que Jésus est venu il y a 2000 ans? Quelle était sa mission? Quelle était sa mission? Allô? Sauver son peuple. C'est marqué, il est venu pour sauver son peuple. C'est qui son peuple? Pardon? Non, pas que le peuple juif. C'est vrai qu'il est venu dans le cas du peuple juif, mais c'est nous tous. Il est venu, son peuple, aujourd'hui c'est nous, hein, c'est les juifs, c'est nous, c'est ceux qui l'aiment. C'est son peuple. C'est-à-dire, un peuple, il n'est pas constitué encore complètement, hein, il va l'être. Quand Jésus va revenir, tout le peuple, on le reconnaîtra. C'est tous ceux qui l'aiment, son peuple. C'est vrai qu'à l'époque, les prophéties ont été données aux juifs, c'est clair. Donc il est venu pour les juifs. Et il a dit à ses disciples, allez d'abord aux juifs, etc. Mais ensuite, vous savez que Pierre, après, il a été missionné pour s'ouvrir aux païens. Donc ça c'est la suite de l'histoire. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Il faut bien rajouter de ses péchés. Pas sauver son peuple des Romains. Vous voyez, s'ils avaient lu ça dans l'Ancien Testament, ils ne seraient pas tombés là-dedans. Mais le peuple, il attend une délivrance immédiate. Il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. C'est pour les péchés qu'il est venu. C'est pour une question spirituelle qu'il est venu, pas pour une question matérielle. Bien qu'il ait la puissance sur tout l'univers, et la matière, ça ne le dérange pas de la sauver aussi. Mais là, il est venu pour sauver des péchés. Et c'est pourquoi la croix reste et restera jusqu'à la fin de cette ère, de ce siècle, restera le centre de notre focalisation de son peuple, qui est l'Église aujourd'hui, y compris les Juifs, qui font partie de l'Église, de son peuple. Amen. Son peuple qui est sauvé. Donc Jésus savait ça. Et il a résisté à cette tentation. Parce qu'il connaissait son identité, il connaissait sa mission. Pour ça, l'autre fois, je vous ai dit, c'est important de connaître son identité. Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes juste Pierre, Paul, Jacques, ou est-ce que nous sommes celui qui est habité par Christ. Notre identité est en Christ. Si nous avons cette identité, nous pouvons tenir devant les tentations de l'ennemi. Et si nous connaissons notre mission, à quoi Dieu nous a appelés? Est-ce qu'il nous a appelés à régner sur le monde, à faire des signes, à faire des miracles? Non, il nous a appelés à être fidèles à sa parole. Et en étant fidèle à sa parole, c'est Dieu qui confirme la parole. Alors, c'est pas l'inverse. C'est pas en faisant des signes et miracles et ensuite après qu'on va chercher la confirmation de la parole. C'est en parlant de sa part, conformément à sa parole, lui, il agit parce que c'est lui qui a la puissance de le faire. Amen. On a vu que le miracle dans Acte 14 déclenche chez la foule l'identification entre Paul et les dieux, confirmant leur croyance. Au verset 15, Paul annonce la bonne nouvelle. Il dit non. Au verset 15, nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il faut vous détourner de ces vanités. C'est quoi l'autre mot pour vanité? De ces vanités, de ces idoles. Idole, vanité, c'est équivalent. De ces idoles, vous voyez? C'est des idoles. Croire que les dieux ou la divinité est semblable à l'homme, c'est une idole. D'ailleurs, c'est même idiot de vouloir penser ça parce qu'on récupère les mêmes problèmes là-haut qu'on a ici. Donc, ça ne va pas très loin, cette histoire-là. Non, Dieu est bon et il n'y a pas de mal en lui. Et nous cherchons effectivement c'est Dieu qui est parfait. Les Juifs qui sont jaloux de Paul et des apôtres, eh bien, ils rassemblent les foules et ils les gagnent à leurs idées. Et les foules lapident Paul. Bien sûr, ces Juifs ont utilisé des mensonges, des faux raisonnements. Ils ont calomnié Paul pour y arriver. Donc, vous voyez, les foules, ils passent d'un mensonge d'une croyance à un autre mensonge qui est quelqu'un qui dit du mal et ils le suivent. Vous voyez, les foules sont manipulables par le mensonge et l'illusion. Et Jésus, après son baptême, c'est ce qu'on voit ici dans Matthieu 4, c'est juste après son baptême. Son temps n'était pas venu pour régner en gloire. Vous êtes d'accord? Il venait juste de commencer. Et Satan l'attaque. Vous voyez? C'est pour ça que Satan attaque toujours au début. Il veut tuer dans l'œuf. Parce que une fois que ça prend la force, il a plus de mal. Il sait ce qu'il fait. Donc faites attention quand il y a un projet. Le Seigneur veut toujours tuer dans l'œuf. L'ennemi veut toujours tuer dans l'œuf. Et il faut se préserver au départ. Il y a beaucoup de gens souvent qui demandent confirmation de leur projet quand ils ont déjà pris les décisions. Essayez de ne pas faire ça. Parce que parfois vous êtes tellement engagé que ça vous est difficile de revenir en arrière. C'est plus facile au départ. Mais bien sûr, au départ, on ne veut pas parce qu'on a envie que son projet arrive. Et j'en sais quelque chose, ça m'est arrivé aussi. Mais méfiez-vous, parce que c'est une tactique de l'ennemi, que vous allez vous engager et puis ensuite après, ah, je vais voir le pasteur, je vais voir un tel, je vais voir si c'est confirmé ou pas. Bon, puis si la personne vous dit non, bon bah oui, mais vous cherchez d'autres excuses pour le faire quand même. Ok, c'est humain, hein, mais il n'y a pas qu'à vous que ça arrive, ça arrive à tout le monde. Donc attention. Jésus connaissait son identité et voyez-vous, le diable a toujours attaqué dans son identité. Il a dit, si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres et ça va arriver. Si tu es fils de Dieu, jette-toi et il ne va rien t'arriver. Et c'est vrai. C'est ce qui serait arrivé. Mais par contre, il aurait loupé sa mission de fils de l'homme. Il fallait qu'il prenne en tant qu'homme les péchés sur lui à la croix et c'était sa mission. Et c'est ça qu'il a focalisé dès le départ. Dieu, son père, lui avait fixé cette mission. Il a dit oui. Je l'accepte. Et il était fidèle à sa mission. Fidèle à son identité, fidèle à sa mission. Sachons-nous aussi, en tant qu'Église, donc membre de cette Église, et on va faire des formations de membres parce que tout le monde ne l'est pas, étant donné qu'on devient membre du peuple de Dieu par le baptême, et on devient membre de l'Église par un accord sur les règles de fonctionnement de l'Église. Et donc en faisant cette formation, on va d'abord parler de la vision de notre Église et de la mission. Nous avons une vision et une mission qui est spécifique. Toute Église devrait l'avoir, hein, mais bon, chacun... Bon, très souvent sur Internet, on les voit, les visions et les missions. Mais c'est important que chaque membre le sache, parce que nous formons un corps local, et nous défendons ces valeurs devant l'ennemi qui veut les attaquer. Amen. Le parallélisme entre Matthieu 4 et Actes 14, c'est que Jésus a refusé de faire un miracle. Paul, il l'a fait, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a été tenté. Hein. Il l'a fait parce qu'il y avait un besoin. Hein. Et il a prié pour ce besoin et le miracle s'est produit. Mais le parallélisme est intéressant parce que là, vous avez le résultat de ce qui s'est passé quand un miracle se produit. Hein. Ils ont pris Paul pour un dieu. Et Jésus, il l'aurait fait. Et à sa mission, lui à Jésus, aurait été compromise. Et donc, il a résisté à cette tentation. C'était une tentation. Jésus veut simplement que nous annoncions la bonne nouvelle. Comme Paul l'a fait quand il a été pris à partie pour être ce Dieu, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume pour qu'il soit ouvert, que leur intelligence soit ouverte, qu'ils passent de leur croyance dans ces divinités grecques anthropomorphiques à la croyance en le Dieu qui a envoyé Jésus à la croix. Et il y est parvenu, en tout cas pour arrêter la foule dans ce délire. Si nous annonçons la bonne nouvelle du royaume, des signes et des miracles vont se produire. Mais ce n'est pas nous qui, d'une part, les déclenchons et qui les gérons. Enfin, on peut les gérer, mais on ne peut pas les déclencher. Et c'est une confirmation de ce que Dieu est avec nous. Amen. Donc attendons-nous à ce que Dieu agisse, c'est vrai. Mais il agit comme il le veut. Et vous allez entendre cet imam qui a eu des choses incroyables qui se sont passées dans sa vie. Vous allez voir, très très puissante, qui l'a amené à croire en Jésus. La focalisation, le focus de notre témoignage, c'est la croix. Il ne faut pas que nous nous séparions en aucun cas de cette focalisation, parce que la croix a été plantée dans l'histoire de l'humanité comme l'élément historique au travers de la vie et de l'œuvre de Jésus et de sa mission comme la rédemption de l'humanité. L'humanité était complètement remise à plat, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que l'humanité est partie vers le péché, avec Adam et Ève, et notre chair en est porteuse, c'est pour ça on souffre dans notre chair des mêmes tentations, et des mêmes difficultés, des mêmes problèmes. Mais dans l'histoire, Dieu a placé cet événement historique qui est la croix, où un homme, Jésus, fils de l'homme, a porté les péchés de l'humanité. Et il a été frappé pour ça. Frappé pour ses péchés. Il a porté nos péchés. Il a été banni de la société. Il était seul, y compris de son père, parce qu'il était séparé de son péché. Tout ça, il a souffert par amour pour nous. Et ça, cette croix-là doit toujours être au centre de notre vie, de notre témoignage, de notre recherche et des critères que nous pouvons aussi voir dans le peuple chrétien aujourd'hui. Très important. Parce que l'ennemi, qui est séducteur, il n'a pas changé. Sa séduction, il continue à agir. Il n'y a que lorsqu'il sera enchaîné, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est quand il y aura le retour de Jésus qu'il sera enchaîné. Donc aujourd'hui, il continue d'agir et il ne faut pas... Il faut s'attendre. Les démons, il les libère de plus en plus. Vous savez quand est-ce que les démons sont libérés, au fait? Vous savez, il y a des démons qui sont enchaînés. Parce que il leur faut des droits pour agir. Ils ne peuvent pas agir comme ça. Il faut qu'ils cherchent les droits. Comment Adam et Ève ont été tentés, enfin, qu'on sont tombés, c'est quand ils ont donné les droits, ils ont donné la clé. Ils ont donné, ok, ils ont donné la clé à l'ennemi, c'est plus eux qui ont la clé, c'est l'ennemi qui a les clés. Donc à chaque fois qu'on donne une clé, bien on libère un démon. Et entre autres, comment pensez-vous que les démons sont libérés sur cette terre et en France en particulier? Le Seigneur a révélé ça à une équipe de jeunesse en mission qui m'en a parlé. mais je suis tout à fait d'accord avec eux. Bon, je vous écoute. Ceux qui ont fait le TQP, ils savent ça par cœur. Hein. La question à laquelle je pose, ils peuvent répondre sans problème. Pardon ? Non ? Clarté ? Alors, tout le monde dit clarté, droit, autorité. C'est le droit, c'est le droit. On est dans le droit. Si on n'était pas dans le droit, mes chers amis, on serait des pantins. Vous seriez des pantins, vous seriez déterminés. C'est la grande question philosophique hein, que tous les philosophes se posent et ils se déchirent. Est-ce qu'on est déterminé, on n'est pas déterminé ? Déterminisme, pas déterminisme. Voyez. Alors il y en a qui se bagarrent, oui, c'est déterminé, on est déterminé par la nature, par le machin. D'autres ne sont pas déterminés, on est libre arbitre, etc. Mais on est déterminé par le droit. Pourquoi ? Parce qu'on est libre. Et que c'est le droit qui définit ce qu'on laisse faire dans nos vies et ce qu'on ne laisse pas faire dans nos vies. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Hello ? Je ne vous apprends rien là, j'espère. C'est du connu, ça. Eh bien, c'est par le droit qu'on libère les démons. Parce que les démons attendent qu'on leur donne le droit. Donc ils tentent, et si on tombe dans la tentation, il a le droit, et après il le fait. Et après, il faut retourner, reprendre le droit. Et c'est le temps qui purifie. Il faut se repentir, renoncer, libérer, restaurer, etc. Voilà, c'est quatre R, ok ? Donc tout ça, c'est... Ça, si vous, je vous encourage à faire le temps qui purifie autant qu'il le faut pour que ça devienne un réflexe chez vous. Parce que ça, ça va vous garder de la tentation, en tout cas de tomber dans la tentation. Rémi, t'as l'air de découvrir, non ? Non ? Tu réfléchis, c'est bien. C'est bien. Eh bien, j'ai une intermission un jour qu'ils ont fait du combat spirituel à Paris, et souvent, ils sont descendus les Champs-Élysées. Vous savez ce que c'est que les Champs-Élysées ? C'est encore grec. C'est la demeure des bienheureux. Ils sont couchés là. C'est les grands qui sont couchés dans les Champs-Élysées. C'est, voilà, c'est la mythologie grecque. On est complètement grec en France. Et donc, ils descendaient les Champs-Élysées. Et puis, à un moment donné, ils priaient et tout ça. Et Dieu leur a dit, ils ont vu, sur la place de la Concorde, ils ont vu un grand trou et les démons qui sortaient. A dit, qu'est-ce que c'est que ça, Seigneur ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et le Seigneur leur a parlé, tout un groupe, leur a parlé en disant, voyez là, à droite, là, quand on descend, qu'est-ce qu'il y a à droite ? La Concorde. Pardon ? L'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale ? On vote les lois. C'est le droit. Le droit sur la nation. Et à chaque fois qu'il y a une loi qui est votée, qui est inique, il y a des démons qui sortent du puits. Et qui se répandent dans le pays. C'est aussi simple que ça. Il faut avoir une vision spirituelle, des choses spirituelles, pour qu'on comprenne comment les choses sont dirigées. Ça, c'est le royaume de Dieu. Alors, j'en profite, parce que, vous voyez, on a un bibliothécaire qui est très, très efficace. Ce matin, Yves qui m'a donné ce livre-là, George Eldon Ladd, L'Évangile du Royaume. Sachez que ça, c'est... Bon, c'est mieux que rien, hein, c'est bien de vous l'ayez, mais bon, normalement, il y a trois tomes, c'est épais, avec du grec, hein, mais qui est expliqué en français. Mais voilà, déjà, si vous lisez ça, c'est bien, c'est le minimum à savoir sur l'évangile du royaume. Qu'est-ce que c'est que le royaume, hein ? Qu'est-ce que c'est que le royaume ? Le royaume est à venir, est aujourd'hui, le mystère du royaume, la vie du royaume, la justice du royaume, l'exigence du royaume, le royaume Israël et l'Église, quand viendra le royaume ? C'est absolument à savoir, presque par cœur, parce que ça vous aide à comprendre ce que c'est que le royaume. Le royaume, c'est pas que un roi et des sujets, c'est tous les systèmes de gouvernance sur une société. Et donc, il y a le système de gouvernance de Jésus, de Dieu, et le système de gouvernance des humains. C'est ce qu'on appelle le monde, le cosmos en grec. Quand c'est écrit le cosmos, c'est pas le cosmos universel, c'est les systèmes de ce monde. Et les systèmes se reposent sur le droit. Ouais. Alors, on connaissait l'ancien régime, qui était le droit divin, donc le roi pouvait décider tout. Il pouvait se passer de l'Assemblée nationale, de tout. Bon, des fois, il en avait de l'Assemblée nationale pendant une certaine période, mais il écrivait à ses copains royalistes en Angleterre en disant « T'en fais pas, de toute façon tu t'en fiches, tu fais ce que tu veux ». Vous voyez, il y avait un mépris du peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus droit, mais les décisions sont prises à la majorité, pas au consensus, à la majorité. Il suffit que 51% vote et c'est bon. Ça, c'est pas biblique. La Bible parle de consensus. À l'unanimité, ils étaient d'accord. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans l'Église, faire du consensus. Mais à chaque fois qu'il y a une loi inique qui est votée, il y a des droits qui sont donnés. Et donc, on est soumis à ces influences parce qu'on est dans un pays. Et dans tous les pays, ça marche comme ça. Il faut retourner ses droits. Mais vous voyez la difficulté qu'on a, hein. Vous avez vu la marche pour le mariage pour tous, comment ça s'appelait? Manif pour tous, hein. Vous avez vu la difficulté? Quand un gouvernement ne veut pas céder, tous les mensonges sont bons, c'est une manipulation de la foule. Hein. Parce qu'il fallait contenter certains lobbies. Et voilà. Donc vous voyez, la foule, vous pouvez même déclencher des foules. S'il y a une décision de l'ennemi qui veut imposer, c'est difficile. Il faut vraiment se repentir, rentrer dans la repentance. Et quand un peuple se lève dans la repentance, par exemple l'Angleterre, est rentré dans la repentance à ce moment-là. Et ils ont évité la révolution. Ça, c'est connu. Hein. John Wesley, quand il s'est levé, etc., et qu'il a entraîné l'Angleterre derrière lui, eh bien, tout le monde reconnaît que c'est grâce à ça. Et les prières de John Knox, n'en parlons pas, en Écosse, qui ont arrêté certains droits qui auraient été pris autrement. Amen. Donc c'est le droit. C'est le droit. Et l'autorité vient du droit. Alors l'autorité donnée à l'ennemi, c'est un droit inique. Et l'autorité donnée à Dieu, c'est un droit juste. C'est aussi simple. Si vous sachez clarté, droit, autorité, vous avez compris le royaume, comment fonctionne le royaume. Et donc nous, dans nos vies, bien sûr, il faut qu'on retourne tous ces droits pour qu'ils soient dans l'axe du royaume, qu'on le fasse dans notre famille. Si dans une famille c'est pas fait, ben l'ennemi fait ce qu'il veut. Si le mari n'est pas d'accord avec la femme, les enfants, ils font ce qu'ils veulent. C'est le bazar là-dedans, comme on dit. Okay, c'est normal, c'est des principes, il faut les respecter. Et dans une église c'est pareil, et dans une nation c'est la même chose. J'aimerais lire dans Matthieu, chapitre 7, deux versets qui nous introduisent à quelque chose d'important. Matthieu 7, verset 13 et verset 14. Matthieu 7, 13 et 14. Entrez, alors c'est Jésus qui parle, c'est les paroles de Jésus. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu et qui le trouvent. Il y a des prophètes qui disent à la fin des temps, tous les gens vont se convertir, ou presque. Voilà. Moi, je lis la parole et il a dit, il est peu qui le trouvent. Bon, sans commentaire, je reste à cette parole. J'aimerais bien que tout le monde trouve Jésus. Mais bon, c'est la parole qui nous conduit dans la vérité. Il y a deux chemins. Okay. Un chemin qui est étroit, d'accord, et un chemin qui est large. Okay. Et c'est dans des directions opposées. Ils sont. C'est pour ça que je vous propose de voir ces deux versets comme le modèle d'une compréhension intellectuelle qui va vous amener à une compréhension spirituelle, d'une compréhension réelle, d'un modèle qu'il faut avoir dans la tête pour se préserver des tentations. C'est un modèle qui vous aidera. Ce n'est pas le modèle qui vous aide, c'est Jésus qui vous aide. Mais c'est le modèle qui vous aide à vous préserver des tentations. Ces deux chemins sont en sens contraire. Un chemin, il mène au royaume de Dieu, le règne de Dieu dans votre vie. D'accord ? Ici, c'est le royaume de ce monde. J'ai lu à un moment donné dans, je ne sais pas, c'est par image, juste quelques jours avant la mort de Mitterrand, bon, il savait qu'il allait mourir, donc il s'est confié à quelques personnes, un journaliste, Et ce qu'il leur a dit, c'est vraiment la quintessence de ce qu'ils pensaient. Je ne fais pas de détails sur ce qu'il était. Mais il a dit, les gens sont gouvernés par la vanité. Lui, qui dit ça. Il n'a rien trouvé, Salomon l'a déjà dit, mais là on parle de vanité, on parle d'idole. Voyez. Donc le monde, même les gens qui sont au pouvoir, à un moment donné, quand ils quittent ce monde, ils sont obligés de reconnaître que tout est vain. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont vécu, c'est la vanité. Beau, hein, c'est beau, hein, vous vous rendez compte? Vous voulez vivre ça? Dire à la fin de votre vie, c'est tout est vanité? Alors que la fin de notre vie, le Seigneur nous propose de dire, entre dans la gloire, entre dans la joie de ton maître. C'est ça que nous voulons vivre, oui? Amen. Ben, il faut prendre le bon chemin. Parce que les deux chemins, qu'on le veuille ou pas, c'est pas parce qu'on se fait du wishful thinking, comme on dit, voilà, je voudrais être sur ce chemin-là. Ok, tu veux être sur ce chemin-là, mais si tu es sur celui-là, tu vas pas là, tu vas là. Donc il faut être sûr qu'on soit sur le bon chemin, c'est tout. Ça, c'est de la réalité. Hein. C'est pas, voilà, j'aimerais être là. Non, il faut être là. Voilà, donc deux chemins. Et je vous propose de voir ces chemins comme une route à deux voies. Alors bien sûr, elle est un peu bizarre, cette route à deux voies, parce que voilà, là, c'est juste peut-être même un vélo. Puis là, il peut y avoir une autoroute à 10 millions de voies. Donc, mais il y a une ligne blanche. Et le Seigneur dit, attention, tu es sur ce chemin-là, mais fais attention, parce que si tu t'endors, tu vas dépasser la ligne, et là, ça va dans l'autre sens. Alors donc, voilà, tu n'es pas très, très en sécurité, parce que tu vas dans ce sens-là. Hein. Alors plus tu vas vite, plus tu vas avoir un accident. Hein. Donc attention. Hein. Restons sur ce chemin. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'on a envie de faire ça, revenir. Pourquoi? Parce que la tentation, elle est à l'origine d'une séduction. Et la séduction, mes amis, sur la chair, plus agréable que la vérité. C'est pour ça que Satan, il a tendance à gagner. Parce que la chair, quand elle est séduite, c'est plus agréable que la vérité. La vérité, c'est austère. Ah, oh, ces protestants, ils sont austères. Les évangéliques, ils sont austères. Nous, on fait la fête, on s'amuse, machin, etc. Vous voyez, voilà, l'austérité, c'est pas très engageant. Hein, on préfère le fun, on préfère le... Mais je vous signale qu'en tant que chrétien, on peut faire du fun aussi. Hein. Regardez les jeunes, voilà. Mais c'est d'une autre nature. Hein. Je laisse tomber. Matthieu 7, 13 et 14, Jésus dit, entrez par la porte étroite. Alors il y a une porte, vous voyez, le problème c'est qu'il y a une porte, et ici il y a une porte qui est large. D'accord ? Ah ben c'est beaucoup mieux ça, les gens tolérants. Hein. Ici, là, attends, ils disent qu'il n'y a que Jésus seul qui... C'est quoi ça? C'est des gens intolérants. C'est des gens... voilà, ils ne sont pas du tout dans l'air du temps, etc. C'est pour ça qu'un chrétien qui dit que la voie, c'est Jésus seul, s'il n'est pas bien dans ses bottes de son identité et de sa mission, il ne pourra pas tenir. Il ne pourra pas tenir. Ce n'est pas possible. Les pressions sont trop fortes. Ici, voyez-vous, le mouvement de la foule... qui est une puissance incroyable. Et plus ça va, plus il sera puissant. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Âge. Et le Nouvel Âge, il prend toutes les croyances de tout le monde, de tout l'universalisme, tout, et hop, on va dans la même direction. Dans la même direction. Pas de problème. On embarque tout le monde. Personne n'est exclu, une tolérance totale, allez-y, c'est bon, on y va. Ok ? Ben oui. Mais là, Jésus dit... C'est étroit. La porte est étroite. C'est quoi la porte étroite? C'est quoi la condition de la porte étroite? Ruben, tu le sais. Pardon? Non, ça c'est après. Ça c'est la sanctification. C'est la croix. Désolé, hein, je me répète. La croix. La croix. La croix, c'est quoi? C'est Jésus seul. C'est pas moi, hein. C'est le christianisme, c'est les apôtres, c'est le fondement apostolique. Jésus seul. On peut être sauvé que par Jésus seul. C'est très dur à porter ça. Hein. J'en conviens. C'est très dur à porter. Mais sinon, on n'est plus dans le christianisme, je suis désolé. Si la, vous enlevez la croix, vous enlevez tout la spécificité du christianisme, c'est tout. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est le règlement du péché. Parce que l'homme est séparé de Dieu à cause du péché. Ça aussi, c'est un mot qu'on ne veut plus entendre. Qu'est-ce qu'on utilise dans l'autre chemin, là? Je vais vous faire une petite révélation, pour ceux qui ne le sauraient pas, que en milieu, il y a quelque chose que vous ne voyez pas, normalement. Vous ne le voyez pas. Mais ça existe. Je vais le dessiner, mais normalement, vous ne devriez pas le voir. Okay? C'est une échelle qui monte au ciel. Ok? C'est quoi cette échelle? Allez à Notre-Dame de Paris, vous le verrez l'échelle. Cette échelle. Elle est là, mais vous ne la voyez pas. Parce que vous n'êtes pas attentif à votre environnement. C'est en plein milieu du fronton. Plein milieu. Non, je crois que c'est sur un portail principal, je ne sais plus. C'est l'ésotérisme. C'est l'échelle de l'ésotérisme. L'échelle de l'ésotérisme, c'est que les grands, ça c'est les grands hein, de ce monde qui l'utilisent, eux ils sont déjà au ciel. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, hein, ils sont déjà au ciel. Hein, vous n'avez pas besoin. Voilà. Pourquoi ils sont au ciel? Parce qu'ils montent un degré de perfection. Ça c'est l'échelle de perfection. Voilà. Et ils utilisent l'agnose, c'est-à-dire des connaissances secrètes. Connaissance secrète. On leur dit, voilà, alors ils font des efforts, ils font des efforts, ils font des efforts. Vous verriez la somme des connaissances qu'ils doivent acquérir pour devenir parfaits. Le problème qu'ils ne savent pas, même ils tireront là-dessus, c'est qu'au bout, ça s'appelle l'illusion. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ceux qui conduisent tout ça, ça s'appelle un qui s'appelle Lucifer, porteur de lumière, mais qui en fait amène à la mort. Parce que ce chemin-là, Jésus l'a dit, il mène à la mort. Vous voyez? Et ce chemin-là mène à la vie. Vous voyez? Le problème de la croix, c'est que la Bible dit que c'est impossible de le comprendre par le raisonnement. Or, les hommes veulent raisonner. Ça, vous pouvez raisonner. Hein. Mais je me suis un peu intéressé à la gnose. Il y a autant de gnose que de personnes. Hein. C'est fou, quoi. Quand vous commencez à chercher ce qu'ils veulent dire, de toute façon, ils se bagarrent là-dedans, et il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre, parce que chacun a un petit truc voilà, qu'il change et tout ça. Donc ça, c'est du pipeau, et c'est horrible. Mais vous ne le voyez pas, ça. Ésotérique, ça veut dire secret. Vous êtes dans l'exotérique. Hein. Exotérique, ça veut dire extérieur, exotérique. Donc, on vous balance des religions. Des religions, des rites, des machins, etc. Voilà, les foules, ils sont balancés par l'exotérique. Mais derrière, c'est conduit par l'ésotérisme qui est conduit à l'illusion. Donc il y a deux chemins. Il y en a un qui mène à la vie par la vérité et l'autre à la mort par le mensonge. Le mensonge. Philippiens, chapitre 2, verset 13, nous aide aussi à comprendre comment ça fonctionne. Philippiens 2, 13. Il faut que je le trouve. Philippiens 2, 12 et 13. Ainsi, mes amis, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant ou en faveur de sa bonne volonté. Ce verset m'a toujours travaillé depuis que je suis venu au Seigneur. Parce que, effectivement, il paraît contradictoire. Mais en fait, il n'est pas contradictoire. Il parle simplement de ce chemin, ici, là, sur lequel on est quand on est chrétien. Eh bien, il assume la coopération du chrétien avec Dieu. Oui. Dieu ne nous prend pas pour des pantins. Ici, je vous garantis, vous êtes un pantin. Si vous rentrez là-dedans et vous laissez par la machine, vous êtes un pantin. Mais ça, c'est fait pour vous amener à la mort. Mais si vous êtes là, Dieu, il coopère. Il veut votre coopération. Donc, ça, c'est le travail du salut. Mais ça s'appelle le chemin de la grâce. Ça, c'est le chemin de la grâce. Ok ? Ça, c'est le chemin de la perfection. Hein ? Il y a des gens qui veulent vous faire croire qu'ils sont parfaits. Mais surtout, ne regardez pas derrière. Hein, parce que vous serez déçus. Mais ici, vous pouvez regarder. Jésus, lui, il est parfait. Vous pouvez compter sur lui. Vous dites amen ? Et oui. Et c'est le chemin de la grâce. C'est-à-dire que Dieu vous demande de mettre votre salut en action, mais en même temps, il vous donne tous les éléments pour le faire. Vous voyez ? Donc c'est cette coopération extraordinaire où vous n'allez pas passer votre vie à chercher les connaissances, vous allez simplement chercher votre vie à rester en relation avec le Seigneur, à obéir à sa parole, à l'écouter et à la mettre en pratique, c'est tout. Et le Saint-Esprit va agir en vous pour vous aider au vouloir et le faire. Vous voyez ? Donc c'est ce chemin extraordinaire qui est là, hein, et qui s'appelle aussi le chemin de la sanctification. Et nul ne verra le Seigneur s'il ne connaît pas ce chemin de la sanctification, parce qu'il y a la gloire au bout. Amen. Parce que si vous ne marchez pas dans cette coopération avec Dieu, vous allez forcément, alors que vous le vouliez ou pas, vous allez dépasser la ligne blanche. Parce que le problème de la ligne blanche, c'est que il suffit d'un assoupissement. Hein. Vous êtes déjà arrivé un peu, vous êtes fatigué, paf, d'un seul coup. Voilà, et des fois c'est là que vous dites, allez hop, je m'arrête sur la route parce que voilà, c'est trop dangereux, quoi. Mais la ligne blanche, c'est pas une autoroute avec un truc en béton, hein. C'est, vous pouvez passer sur la ligne blanche. Et qu'est-ce qui se passe sur la ligne blanche quand vous êtes de l'autre côté, Tom? Toi qui viens de faire le permis là. L'accident? Non, pas forcément. Tu vois, il faut y aller doucement, dans les métaphores, dans les images. Non, pas forcément. Tu peux rouler pendant 10 km sur la ligne blanche, il n'y a personne. Il n'y a pas d'accident. Eh oui. Pardon? On prend la. Voilà. Alors, très bien, Laurence. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Vous voyez, cette métaphore, je l'utilise pour vous aider d'une manière très simple à vous méfier d'aller dans ce sens-là. Vous pouvez toujours méfier, vous y allez quand même, mais c'est pas grave. Mais ce qu'il faut être conscient de revenir, ok? Bon, parce que tous, on n'est pas Jésus. Hein. Donc la ligne blanche, on la dépasse de temps en temps, mais ce qu'il faut, c'est la dépasser de moins en moins durant votre parcours. Pour que vous ne donniez pas les. Parce que là, vous donnez des droits à l'ennemi, vous voyez. Là, vous faites comme à l'Assemblée nationale, vous donnez des droits à l'ennemi. Et là, ce n'est plus le royaume de Dieu. Vous pouvez toujours proclamer le royaume. Hein. Bon, ça, c'est du wishful thinking. Vous pouvez parler. Voilà. La réalité, c'est ça. Vous donnez le droit ou vous ne donnez pas le droit. Là, vous empêchez le droit à l'ennemi parce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Là, vous donnez le droit que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas le problème de vouloir. C'est le problème d'être sur la bonne route. Alors, je reviens. Vous dépassez la ligne blanche, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de voiture ou tout ça. Bon. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous habituez. Finalement, il n'y a rien. Le péché, on s'habitue. Ah, il n'y a rien. Il ne se passe rien. Je peux continuer à faire ça, il ne se passe rien. Vous voyez? Il ne se passe rien. Jusqu'au moment où, bam! Le gros truc, et là, c'est la catastrophe, et oh, Seigneur, pourquoi t'as permis? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Enfin, je passe. Ok? Mais vous avez compris. L'autre, c'est ce que Laurence a dit, c'est qu'on s'habitue, on dit, ah, mais tiens, j'ai passé la ligne blanche, c'est rien passé, bah, je suis revenu. Hein. Oui. J'ai juste dépassé un tracteur, bon, c'est normal. Il roulait à 30 à l'heure, bon, c'est justifié et c'est normal qu'on fasse ça. Mais du coup, on a vu qu'il ne se passait rien, on le refait. Bon, on le refait pour une autre occasion, qui est plus sympa, okay, qui satisfait la chair et tout ça. Et comme ça, petit à petit, notre conscience, c'est un problème de conscience, notre conscience vous donne l'autorisation. Parce qu'au départ, la conscience vous dit, ah, attention, le code de la route, hein. Tu viens de le faire. Tous les gens qui viennent avec moi en voiture, qui ont passé le code. Ah oh oui, André, c'est cela. Voilà. Voilà, mais attends, c'est légalisme là. Attends, laisse-moi faire un peu. Non, mais c'est normal. C'est la conscience de respecter le code de la route. Bon, le problème, c'est qu'on n'est pas sous la loi. Parce que la loi n'est jamais parfaite. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Les Français, ils interprètent la loi. Enfin, peu importe. Je reste sur l'idée spirituelle, la métaphore. La conscience, elle s'émousse. Je sais que John White, je le lisais beaucoup, c'est un psychiatre chrétien qui expliquait comment fonctionne la conscience par des métaphores. Il disait que lui, quand il était 18 ans, je crois, ou 20 ans, il y a un copain qui lui a dit, écoute, je t'emmène au cinéma, on va regarder Laurel et Hardy. Il a dit, non, je ne peux pas venir. Ah bon, bah, attends, Laurel et Hardy. Non, non, je ne peux pas venir. Il ne pouvait pas, parce que ses parents lui ont dit, le cinéma, un chrétien ne met pas les pieds dans un cinéma. Bon, il avait reçu cette éducation. Donc, il a eu un travail pour dire à son copain, qui insistait parce qu'il revenait plusieurs fois, ce film et tout ça. Finalement, hop, il prend la décision d'y aller. Il va au cinéma. Waouh, pendant 15 jours, il ne dormait plus. Il ne dormait plus. Oui, sa conscience le réveille. Donc, tu as fait péché, tu as fait péché, tu as, etc., etc., etc. Voilà. Et en fait, après, il a dit à ses parents tout ça. Et puis, du coup, la conscience... C'est émoussé parce qu'il a dit attends, il n'y a pas de mal, enfin, il a raisonné tout ça, et puis il avait raison. Mais du coup, après, il a pu aller au cinéma, voilà, regarder un autre film de Laurel et Hardy. Il a pris ça pour montrer comment fonctionne la conscience. Vous voyez, alors, bon, ça c'est gentillet, mais pour un péché, ça fonctionne pareil. Vous volez quelque part 10 centimes, machin, personne n'a rien vu, etc. Et petit à petit, votre conscience voilà, ne marche plus comme ça. Et donc, on a un décalage. Et l'apôtre Paul dira que ceux qui arrivent à faire des choses, bon, allons pas jusqu'à Hitler, mais bon, vous voyez l'idée, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport aux autres? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire des choses qu'un homme normal ne peut pas faire? Pardon? Non, non, je reste sur ce que je viens de vous enseigner, sur la conscience. C'est marqué, je n'ai pas le verset en tête, mais je vais vous le donner, c'est dans une des épîtres. Leur conscience est marquée au fer rouge. Oui, c'est quel verset? Voilà, c'est dans une des épîtres de Paul. Leur conscience est marquée, qu'est-ce que c'est le fer rouge? Vous avez vu les Rangers, quand ils marquent au fer rouge les animaux, ils le mettent dans le feu rouge vif, et paf, ils le mettent sur leur... Et voilà, ils mettent leurs insignes, leurs initiales. Et du coup, quand vous êtes marqué au fer rouge, hein, fer il est à rouge à 1200 degrés, eh bien, tous les nerfs sont morts, quoi. Donc vous pouvez toucher, vous ne sentez plus rien, quoi. Voilà, c'est ça la conscience qui ne sent plus rien. 1 Timothée 4, 2. Leur conscience est marquée au fer rouge. Et il le dit dans le contexte justement des gens qui peuvent faire des choses dans l'église et voilà, qui sont mauvais. Donc c'est la conscience. Donc attention, parce que quand vous passez ligne blanche, acceptez que quelqu'un vous dise « t'as passé la ligne blanche ». Ok, merci. Dites merci au lieu de le critiquer. Vous vous en serez reconnaissant pour l'éternité. Donc nous sommes aussi les uns et les autres amenés à nous reprendre pour ne pas passer les lignes blanches. Amen. La ligne blanche. Voilà, je vais en rester là, parce que ce n'est que le début d'un enseignement que je voudrais que compreniez. Ici, on va voir qu'il y a quatre caractéristiques de ce chemin. Et ces quatre caractéristiques, vous les avez là-haut. C'est l'évangile équilibré, Matthieu, Marc, Luc et Jean, où Jésus nous justifie. C'est Jésus qui nous justifie, nous réconcilie, nous sanctifie et nous fait régner avec lui. Nous sommes gardés par le Seigneur sur ce chemin, et la seule chose que nous avons à faire comme effort, c'est simplement de rester dans sa présence en relation avec lui. Amen. Alors qu'ici, on vous demandera des efforts, ou alors vous êtes la foule qui allait à l'abattoir et vous ne le savez même pas. Alors c'est encore pire. Donc si nous voulons aller avec le Seigneur, eh bien restons sur ce chemin étroit qui va nous conduire à la vie éternelle. Amen. Je propose de prier un instant. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es celui qui nous a montré le chemin, qui nous a ouvert le chemin, qui a ouvert cette porte, Seigneur, qui est la croix, et tu nous demandes chaque jour de prendre la croix parce que seule la croix va nous aider à rester sur ce chemin. Seigneur, merci de nous aider dans toutes les situations de nos vies durant cette semaine qui va venir, Seigneur, ne pas dépasser la ligne blanche, ou si nous l'avons dépassée, que nous puissions revenir, Seigneur, pour ne pas être entraînés, parce que nous pouvons même être entraînés et à un moment donné aller dans l'autre sens. Et Seigneur, nous te demandons ta grâce pour que nous puissions rester sur ce chemin et te glorifier, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.